Je vous invite à entendre deux textes. Le premier, c'est Laurence qui l'a choisi. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, les versets 11 et suivants. C'est un texte qui est connu, j'espère que vous le connaissez. C'est un très beau texte. « Oui, ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas au ciel. On dirait alors, qui va pour nous monter au ciel, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas non plus dans les mers, on dirait alors, qui va pour nous passer outre-mer, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ? Oui, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » pour que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes, alors tu vivras. Tu deviendras nombreux et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu ne l'écoutes pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare, aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends un témoin aujourd'hui contre vous, le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, un des textes qui nous était proposé à la lecture aujourd'hui dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, les versets 11 à 23. Je vous le déclare, frères. Cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme, avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce a jugé bon de se révéler en moi et de révéler son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. Puis je suis revenu à Damas. Ensuite, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté 15 jours auprès de lui sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris, je le dis devant Dieu. Ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais mon visage était inconnu aux églises du Christ en Judée. Simplement, elles avaient entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce maintenant la foi qu'il détruisait alors. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Voilà, Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 242 en entier. 1, 2, 3. Voilà quelques mots sur ces deux passages qui viennent d'être lus. Avec le texte du Deutéronome, nous sommes tout à fait à la fin du livre du Deutéronome, à la fin des discours de Moïse. Il y aura encore le discours d'adieu et la prière finale, et Moïse va mourir. Mais nous sommes aussi à la fin du Pentateuque, c'est-à-dire nous sommes à la fin de la Torah, de la loi. Vous savez que la loi, pas seulement les 10 paroles, ce ne sont pas seulement les 10 paroles, mais c'est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Et là, nous sommes tout à fait à la fin. Et Moïse, auquel on prête ses paroles, passe pour un homme âgé puisqu'il a 120 ans. Et il a 120 ans à l'âge de sa mort. Et il est là, donc, en train de quitter ce peuple qu'il a conduit à travers l'Exode, à travers le désert, avec toutes ces aventures que vous connaissez, évidemment. Et je trouve c'est intéressant d'entendre ce qui a été lu tout à l'heure de la part de cet homme qui a 120 ans et qui a toute l'expérience dont on vient de parler. Il sait ce que c'est que la vie, il sait ce que c'est que la fidélité à Dieu, il sait aussi ce que c'est que l'infidélité à Dieu, évidemment. Tout cela s'est raconté dans l'histoire de l'Exode, évidemment, avec des épisodes difficiles avec le veau d'or, les eaux de Meriba, que sais-je, avec les eaux amères, que sais-je encore, mais aussi la traversée de la mer. Voilà donc Moïse qui donne ses dernières recommandations avec son expérience de la vie. Et ces dernières recommandations, ce sont d'abord une affirmation. Une affirmation et ensuite une demande. L'affirmation, c'est que la parole de Dieu est toute proche. Elle est inscrite au cœur même des hommes. J'avais dit une fois ici que dans le texte dit qu'elle est dans la jugulaire, carrément, là où passe la vie. Incontestablement, on traduit ça, elle est au cœur de la vie, si vous voulez. Elle est toute proche. Elle est dans l'être même de l'être humain, dans notre être même. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est une spécificité humaine que d'affirmer des choses comme cela, dire que la parole de Dieu est là, véritablement, en nous, que la transcendance vient nous toucher au cœur, véritablement. Les animaux, autant qu'on sache, n'ont pas cela, n'ont pas cette idée. Cette idée, elle est propre, vraiment, à l'être humain. Vous voyez ? Et je trouve que c'est important de le souligner parce que ça montre que l'être humain est un animal complexe qui réagit à des instincts, à des pulsions, à des désirs, que sais-je encore, qui a des réactions, qui peut raisonner de manière mécanique presque, mais il a en lui une part d'imprévu, quelque chose qui vient d'ailleurs et qui est indéfinissable finalement, qui fait que l'être humain ne peut pas être saisi en entier. Il y a toujours une part de mystère incroyable. Et la Bible nous dit cette parole, cette part du divin qui est en l'homme le fait vivre. La parole est toute proche. Elle est véritablement dans ton cœur et c'est le sens même de la bonne nouvelle qu'elle est déjà inscrite dans la première alliance, dans l'Ancien Testament. Et dans des textes, même si le Deutéronome est un texte tardif, vous le savez, maintenant on le sait, il a été inspiré par Josias avant l'exil à Babylone, mais il a été surtout écrit dans la plupart de son corpus, a été écrit après l'exil, c'est-à-dire vers le 5e, 4e siècle, pas avant. Mais peu importe, très tôt, les Hébreux ont senti cette présence de Dieu en eux, dans leur peuple, et c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est toujours un Dieu qui vient vers ce peuple, toujours, qui vient le faire vivre et qui vient l'exhorter, finalement. Cette parole qui est là, cette parole qui est toute proche de toi, elle est créatrice de vie. Nous le savons depuis qu'on ouvre la Bible à la première page, c'est la parole, Dieu dit, la parole de Dieu est créatrice. Elle est créatrice de vie par l'appel, par la définition, elle est créatrice de vie parce qu'elle fait apparaître le monde petit à petit, jour après jour, dans le mythe de la création, de la Genèse. Elle ouvre des horizons au monde, elle ouvre à la nouveauté aussi. Elle ouvre véritablement aussi au visage de l'autre. Vous savez que la première parole de l'homme dans la Bible, c'est lorsque l'homme rencontre son alter ego, lorsque l'homme rencontre Isha, la femme. La première parole, c'est une parole d'exclamation, de joie, d'étonnement. Celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam, là, il est scotché, comme on dit un petit peu par sa femme qui est là, le visage de l'autre, il la reconnaît, et, hein, elle est, Isha et les Ish, ils sont très proches l'un de l'autre, mais il y a un tout petit truc en plus, le A, là, qui est, le Aleph, le A, Isha, qui montre qu'elle n'est pas tout à fait pareille quand même. Donc, il y a toujours à découvrir quelque chose, à saisir dans le regard de l'autre, dans la rencontre avec l'autre, quelque chose qui nous manque, que nous n'avons pas incontestablement et qui fait tout l'intérêt de cette ouverture aux autres. Mais si on fait attention à ce qui a marqué dans la Bible, il n'y a que des choses qui sont très intéressantes, au-delà d'une forme archaïque de Dieu parfois qui nous surprend par sa violence, mais que nous rejetons évidemment parce que liée à une époque, évidemment. La parole, elle est faite, elle est là, elle est à disposition du monde pour être vécue véritablement. Elle est dans l'existence, elle fait partie de l'être humain, une question d'ontologie, de l'être même de l'humain. Je crois que c'est important aujourd'hui de dire ça, vous voyez, parce que vous savez que j'ai un gros fantasme, qui est le transhumanisme, ceux qui me connaissent bien le savent, cette idéologie qui est une idéologie vraiment matérialiste à 100%, je veux dire, pour laquelle la transcendance n'existe pas, pour laquelle Dieu n'a pas de sens, vide de sens carrément, et qui voit l'homme d'une manière mécanique, véritablement, à la suite de philosophes comme la maîtrise, Condorcet et autres, ça a des racines qui reviennent, qui montent loin jusqu'au XVIIIe siècle, où tout peut s'expliquer dans l'homme, à partir des messages reçus d'extérieur que le cerveau va traiter de manière quasiment fonctionnelle et mécanique. Voyez, or, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que l'homme n'est pas une mécanique. L'homme a justement, au moins dit la Bible, cette transcendance qui vient le toucher, qui transforme son être, qui fait qu'il est homme, qui fait que lorsqu'il rencontre un autre, il voit quelqu'un de différent mais de semblable en même temps, véritablement. Cette question d'ontologie, elle est là, elle fait la richesse, véritablement la richesse de l'humain, son imprévisible. Alors la parole, elle est là, elle est là, elle est accessible. C'est ce que dit la Bible, elle est accessible, cherchez pas très loin. Elle n'est pas au ciel, elle n'est pas au-delà des mers, on pourrait dire qu'elle n'est pas sous terre non plus, si on voulait compléter le texte, mais elle n'est pas loin, véritablement. Si elle est en nous, si elle est en vous, eh bien, c'est qu'elle est là pour nous faire vivre les uns les autres. Elle est là pour que nous puissions puiser véritablement en elle les sources de la vie. La parole, elle est là. Alors, c'est logique qu'après avoir affirmé cela, la parole est toute proche, arrive la demande qui suit, qui est logique. Tu vas choisir la vie, tu vas choisir la vie automatiquement. Tu as mille et une solutions devant toi. Certaines semblent faciles et d'autres difficiles, peu importe, mais enfin bon, il faut choisir la vie. On aimerait bien que tout cela soit entendu encore aujourd'hui. Vivre, grandir, découvrir le monde. Regardez comment sont les jeunes, les adolescents, lorsqu'ils prennent leur envol, qu'ils ont envie de quitter chez eux pour aller vers le monde, découvrir ce monde, prendre des risques aussi. On sait combien les parents sont angoissés devant de telles situations, à juste titre, parce que quelquefois, il peut y avoir des débordements. Je veux dire, mais voilà. Mais il faut le faire. La vie, elle est ainsi faite qu'elle est un envol, qu'elle est une découverte, et qu'on construit, évidemment. On a envie de bâtir quelque chose, d'avoir des projets, se bagarrer pour ces projets, se bagarrer pour vivre, rencontrer, partager, finalement. Et puis avoir toujours l'idée d'ouverture, d'un ailleurs possible. La vie, elle ne peut pas s'enfermer. Dès qu'on enferme, eh bien, on porte atteinte véritablement à la vie. Donc la vie doit être cette ouverture aux autres. Et donc aussi à la tolérance, à l'émerveillement de la différence que l'autre porte en lui, parce que Dieu lui parle d'une autre manière, parce que ses charismes s'expriment dans une autre catégorie de pensée que les nôtres aussi. La parole, elle est là. Elle est là, elle se révèle au cœur même des hommes. Elle se révèle au cœur même des hommes pour qu'on puisse choisir. Dans la méditation, après tout, on peut se retirer, réfléchir, prendre du recul, comme on dit. On peut méditer sur l'Écriture, évidemment, sur la Bible, ça va de soi, lire la Bible. Vous savez que les protestants lisent la Bible, enfin sont réputés pour lire la Bible au moins tous les jours. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je le souhaite. Même un tout petit peu, vous voyez, 3 minutes par jour, quelques versets pour réfléchir dessus. On n'a pas besoin de lire davantage, vous savez. Et choisis la vie, vous pouvez passer toute la nuit après à réfléchir dessus. Enfin bon. Prendre du recul et puis peut-être le silence. Dans une société qui est tellement bruyante, où il y a tellement de messages, pouvoir entendre le silence et entendre dans le silence le son, l'appel de la transcendance. Pour ça que dans nos cultes, depuis quelques mois, il y a un petit temps de silence, voyez, ou de la musique méditative aussi, procède un peu du même but finalement. Alors c'est vrai qu'en nous, lorsque on entre dans ces types de méditation, de réflexion, de silence, eh bien on puise en soi à la source d'eau vive, à la source de la parole. Puisque l'eau vive dans ces gens, dans l'esprit des gens du désert, c'est véritablement la vie. C'est pour ça que l'évangile de Jean nous en parle avec cette histoire de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob, évidemment. Jésus qui porte lui-même cette parole au cœur même de la vie des hommes et qui va la porter jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Mais la parole est la parole de vie, et après sa mort, les hommes ont toujours l'expérience de cette parole qui leur a été laissée, une parole extraordinaire qui dit que la mort est vaincue d'une manière ou d'une autre. Choisir la vie. Il faut choisir parce que le temps est court, d'abord. Nous n'avons que quelques années d'espérance de vie devant nous. Comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais dans tous les cas, c'est la réalité. Et ceux qui ont perdu des compagnons, des compagnes, ou des enfants, ou des amis, savent très bien que la vie est courte et qu'elle peut s'abréger parfois brutalement. Mais il faut choisir parce que le temps est court. Et donc, il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Prendre le temps de réfléchir, précisément. C'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps qu'il faut prendre du temps pour ne rien faire. Paradoxe. Mais paradoxe qui va enrichir la vie, parce que si nous réfléchissons en méditant, en réfléchissant bien, en disant « oui, il y a une parole de vie qui est là, il faut que je choisisse la vie », alors on va choisir l'efficacité, on va aller vers ce qui est porteur de sens, porteur de résultats. On ne va pas se disperser. Choisir, c'est véritablement bâtir du solide, véritablement, quand on choisit bien. On peut se tromper, évidemment, nous ne sommes que des êtres humains. Mais nous avons la grâce qui est là pour nous dire de prendre le risque, d'éventuellement nous tromper, et de savoir que même si nous avons des bêtises graves, il y a toujours ce pardon qui est là pour nous relancer toujours dans la vie. Dieu nous invite sans cesse et sans cesse à la vie et à choisir. Alors, il y a plusieurs manières de vivre et de choisir. Certains parmi nous sont nés dans le christianisme et dans le protestantisme, comme on dit, sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Pour d'autres, la révélation s'est faite petit à petit, au fil des années, des expériences, ou alors de manière assez brusque, comme ça a été le cas pour Paul, ce Paul extraordinaire quand même, champion du judaïsme, comme il le dit lui-même. Il était l'élève de Gamaliel, qui était quand même un très très grand rabbin du 1er siècle, qui est connu dans les listes rabbiniques que les juifs tiennent encore aujourd'hui. Il est champion du judaïsme, il est pharisien, très vraisemblablement. Il s'est tourné vers les païens pour aller les évangéliser. Il y a une conversion, il y a quelque chose qui s'est passé à Damas, une expérience très très forte finalement, qui va bouleverser sa vie, qui va le lancer sur une autre route finalement. Il va choisir une autre route que celle à laquelle il s'était destiné au départ. Eh bien, en lisant ce texte des Galates, je me suis aperçu que ce n'était pas si simple. Ce n'était pas si simple parce que je me suis dit, mais à partir du moment où il a eu ce flash, qu'il a senti la présence du Christ, là, vraiment, à côté de lui, il y a d'abord la cécité. Ce n'est pas dans le texte là que nous avons lu, mais c'est dans le texte des Actes des Apôtres. D'abord, cette cécité, comme s'il était perdu. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, dans le texte que nous avons lu, en revanche, vous voyez qu'il y a une errance de Paul. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Arabie, par exemple? C'est une énigme. Il est allé à Damas, puis il part en Arabie, il retourne à Damas, il va à Jérusalem, juste après cette révélation formidable. Et là, de ça, on ne sait rien, absolument rien. Voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis posé la question, est-ce que dans cette errance de Paul, qui a reçu ce choc, il y a une remise en cause. Une remise en cause qui fait que Paul, changeant complètement de direction, cherche précisément cette direction, ce qui nous est révélé à travers cette géographie. Peut-être que Paul, dans cette errance géographique, se cherche lui-même, après tout. Il a été bouleversé, remise en cause complètement, il faut prendre une direction complètement différente. Tout est remis en cause, toute sa vie, tout son idéal, toute sa manière de vivre la présence de Dieu, considérable. Considérable. Il cherche et peut-être qu'il se cherche lui-même. Paul était Saül, il change de nom, il change de route, il change de vie. Cette rencontre lui fait saisir qui il est, lui fait saisir qu'il a été destiné depuis le sein de sa mère, comme il dit, à être un élu, à être prédestiné précisément, dire ce qu'il ignorait jusque-là. La révélation, la conversion, la parole de vie qui est là dans nos cœurs peut nous faire révéler qui nous sommes, finalement. Révéler d'abord à nous-mêmes notre être, pour pouvoir justement choisir et aller chercher ce qui est pour nous la vie bonne, comme disaient les Grecs autrefois et comme le dit Luc Ferry dans toutes ses œuvres, à peu de choses près. Chercher la vie bonne. Quelle est, pour les philosophes, c'est le destin qui conduit à la vie bonne. Je veux dire, comme cet Ulysse qui va être conduit à travers son monde, à travers toute la Méditerranée pour retrouver sa Pénélope. Et c'était ça sa vie bonne finalement, son destin d'une certaine manière, qui le dépasse. On voit qu'il est le jouet des dieux, des déesses et que sais-je encore. Mais pour nous, la vie bonne, elle est non pas dans les mains d'un destin aveugle ou de dieux idolâtres, que sais-je encore, mais dans les mains de Dieu véritablement. Elle est dans cette parole, la vie bonne, cette parole qui va nous transformer et faire de nous quelqu'un de nouveau, quelqu'un de recréé. Choisir la vie. Choisir la vie, si c'était finalement se ressourcer pour se retrouver soi-même, véritablement, avec nos forces et nos faiblesses. Et de là, partir à l'aventure, finalement, l'aventure de la vie vers les autres pour bâtir le royaume, tel que nous le voyons les uns les autres. Et je crois que le vieux Moïse, avec ses 120 ans, a bien raison de nous inciter à choisir la bonne route pour avoir la vie bonne. Les routes, elles sont là. Elles sont là, certaines, nous le savons, sont difficiles, d'autres sont faciles d'abord. Et vous savez, Jésus dira, choisissez la porte étroite, la route étroite est difficile, le chemin est difficile, parce que c'est celui-là qui va vous conduire à la vie. La vie spacieuse et large, c'est sans doute la vie de la facilité qui est souvent marquée par l'idolâtrie, mais qui peut conduire à des impasses douloureuses. La route, elle est là, avec des signes qui sont là, des signes qui nous disent que nous sommes sur la route, que nous approchons, que nous avançons finalement. Ces signes, ce sont le baptême et la Sainte Cène, évidemment. Le baptême tel que nous l'avons vécu tout à l'heure, qui est là comme un signe sur la route. Et la Cène, évidemment, lorsque nous la partageons, est aussi un signe qui nous dit que le Christ est présent parmi nous en esprit et en vérité, évidemment. Et puis, comment se diriger sur cette route? Sur cette route qui est jalonnée par ces signes, par ces panneaux indicateurs, je garde la même image de la route. Je dirais qu'il y a une carte qui est là. Une carte qui est là pour nous guider, c'est la Bible. Ni plus ni moins. On avance avec le témoignage de l'Écriture. De temps en temps, c'est vrai qu'il faut s'arrêter pour réfléchir à tout ça. Choisir la vie, c'est véritablement choisir la route de Dieu et la route avec Dieu. Et c'est choisir cette route qui est la route bonne parce que Dieu est un Dieu qui sauve et un Dieu qui nous ouvre à l'éternité. Amen.